quand on aime les saints, on aime plus tous les autres. Donc on devient plus miséricordieux pour tous les autres. Oui. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, justement. Parce qu'il y a un rejaillissement. Ils deviennent pour nous source, parce que nous sommes unis à eux. Et dans la mesure où nous sommes unis à eux, nous sommes unis à une source qui est plus puissante que la nôtre, si vous voulez. C'est comme dans des canalisations, quand vous lisez une source avec une autre source, ça gêne plus. Vous voyez, il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus grand. Alors évidemment, c'est, quand il s'agit de l'ordre surnaturel, il n'y a pas de danger que des quantités s'unissent. Des quantités venaient voir Marthe. Et des quantités puisées auprès de Marthe. Et pour tous, Marthe demandait « Priez avec moi, priez pour moi. » Et Marthe demandait toujours « Priez pour moi. » Moi, ça me frappait beaucoup, tout le temps. Elle le suppliait « Priez pour moi. » Ne m'oubliez jamais au Saint-Sacrifice de la messe. Et elle le demandait impérativement à tous les pères de foyer. Et quand un père de foyer oubliait une fois de prier, Marthe lui rappelait « Vous avez oublié de prier pour moi ce jour-là. Vous avez été distrait. » Je le rappelais, elle ne me l'a pas fait une remarque pour moi, alors je ne peux pas le dire, mais je sais qu'elle l'a fait pour certains qui me l'ont dit. Alors, c'est ça, je crois, ce qui nous fait saisir ce que c'est que le corps mystique. Ce tissu de relations dans l'ordre de l'amour. Et c'est bien ce tissu de relations dans l'ordre de l'amour. D'où jaillit la miséricorde, vous voyez ? Mais c'est le tissu dans l'ordre de l'amour qui constitue le corps mystique. Et la miséricorde jaillit de là. Alors, article 7. Devons-nous aimer les meilleurs plus que ceux qui sont le plus étroitement unis ? Alors ça, c'est encore autre chose. Moi, j'ai pris exprès là, les deux. Ici, on va faire encore une petite distinction. Le scalpel du théologien. On va passer encore là. Tu vois ? Et c'est vrai, c'est tout à fait. C'est une question très belle pour comprendre ce que c'est que la théologie scientifique. Et demander à la théologie scientifique ce qu'elle peut donner et ce qu'elle ne peut être attentif à ce qu'elle ne peut pas donner. Oui, c'est très vrai que cette question-là, elle est particulièrement intéressante pour ça. C'est pas étonnant. Parce que le propre du sage, c'est d'ordonner. Oui. Et alors, vous comprenez, on met des grosses pattes dans un ordre qui est purement du Saint-Esprit. Parce qu'enfin, c'est le Saint-Esprit qui ordonne tout dans l'Église. Et le théologien, cependant, avec ses grosses pattes, c'est les grosses pattes comparativement au Saint-Esprit, même quand c'est Saint Thomas, c'est les grosses pattes comparativement au Saint-Esprit. Eh bien, il y a ça. Alors, il faut être attentif, il faut être très attentif. C'est que c'est l'Esprit Saint qui, en dernier lieu, ordonne tout en nous. Bien évident, c'est pas nous. C'est l'Esprit Saint qui fait ça. Et c'est l'Esprit Saint qui nous fait saisir ces choses-là. Et c'est l'Esprit Saint à qui on doit obéir et être docile. Mais ce qui n'empêche que le théologien, et ça c'est, je trouve ça très beau, moi, le théologien, sachant très bien que c'est ses grosses pattes de théologien, qui va essayer de mettre, autant qu'il le peut, quelques aspects objectifs dans cet ordre qui vient de l'Esprit Saint. Alors, continuons de voir les gros sabots, parce que c'est intéressant, ça m'intéresse, c'est quand même des beaux sabots qui sont bien ciselés, mais qui sont gros comparativement à Saint-Esprit, ça c'est sûr, je suis tout à fait d'accord. Saint Paul dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout de ceux qui vivent avec lui, il a renié sa foi, il est pire qu'un infidèle. Or, l'affection intérieure de la charité doit correspondre à son effet extérieur. Oui, ça, c'est la raison pour ça que saint Thomas n'aimait pas cette dissociation qu'on faisait tout à l'heure. Donc, nous devons avoir plus de charité pour nos proches que pour les meilleurs. Plus de miséricorde pour voir ce que vous voyez. Mais la première œuvre de miséricorde, c'est la prière. Alors, ça colle plus. Alors, voici. Tout acte doit être proportionné à son objet et à l'agent qui le produit. De son objet, il tire son espèce, sa détermination. De la force de l'agent, son degré d'intensité. Donc, ça me rappelle là des principes tout à fait généraux. Tout acte implique ces deux aspects-là. C'est ainsi qu'un mouvement est spécifié par le terme vers lequel il tend et qu'il doit la rapidité de son allure à l'aptitude du mobile et à la force du moteur. Semblablement, un amour est spécifié par son objet et son intensité vient de celui qui aime. Or, l'objet de l'amour de charité, c'est Dieu. Et c'est l'homme qui aime. D'où il suit que, du point de vue de la spécification de l'acte, la différence à mettre dans l'amour de charité à l'égard du prochain doit se prendre par rapport à Dieu. Ce qui signifie qu'à celui qui est plus rapproché de Dieu, nous voulons par la charité un plus grand bien. Et en effet, quoique le bien que la charité veut à tous, et qui est la béatitude éternelle, soit un même bien en soi, ce bien a cependant divers degrés selon les diverses participations à la béatitude. Il convient à la charité de vouloir que la justice de Dieu, pour laquelle les meilleurs participent à la béatitude d'une manière plus parfaite, soit observée. Cela concerne l'espèce de l'amour, donc la détermination de l'amour, car nos amours sont spécifiquement distincts selon les biens différents que nous souhaitons à ceux que nous aimons. Mais l'intensité de l'amour à l'égard du prochain doit se prendre du côté de l'homme qui aime, donc du sujet aimant. De ce point de vue, l'homme aime d'un amour plus intense ceux qui lui sont plus proches, relativement au bien pour lequel il les aime, qu'il n'aime les meilleurs relativement à un bien plus grand. On peut encore ici remarquer une autre différence, donc première différence, hein, vous voyez bien. C'est donc par rapport à ici, par rapport à ces deux ordres, on va mettre un ordre entre les deux. J'avais mis spontanément 1 et 2, vous voyez. Saint Thomas nous fait comprendre qu'il faut aimer ceux qui sont plus proches de Dieu, ceux que nous croyons être plus proches de Dieu, selon le souffle de l'Esprit Saint. On doit les aimer spécifiquement plus. Mais ceux qui sont plus proches de nous, on parle d'une intensité. Ce qui n'est pas commode, hein, parce que c'est le même acte. Hein. Comment on peut avoir ça? C'est une analyse. Hein. On va revenir dessus après. Parce qu'ils sont plus proches de Dieu, c'est évident, la raison caritatis, la raison pour laquelle je les aime, c'est parce qu'ils sont plus proches de Dieu. C'est parce que la bonté de Dieu en eux est plus grande. Ils sont plus imbibés de Dieu. Ils sont plus transformés en Dieu. Et donc, puisque je les aime, j'aime le prochain en raison de cela, ben, je les aime avec un caractère plus spécifique. Mais du côté de l'intensité de l'acte, il est évident que ceux qui sont plus proches, ben oui, sont plus immédiatement sensibles. Il y a un appel plus immédiat, on le sent bien, c'est sûr. On peut encore ici remarquer une autre différence. Parmi ceux qui nous tiennent de près, il en est qui sont plus proches par leur origine naturelle, par leur naissance. Origine dont ils ne peuvent s'écarter puisque d'elle ils tiennent ce qu'ils sont. Au contraire, la bonté de la vertu par laquelle certains s'approchent de Dieu peut s'acquérir et disparaître, augmenter et diminuer, comme le montre ce qui précède. Et c'est pourquoi je puis, par charité, désirer que celui qui m'est plus proche soit meilleur qu'un autre, et qu'ainsi, il puisse parvenir à un degré plus grand de béatitude. Il est encore une autre manière d'aimer davantage, par la charité, ceux qui nous touchent de plus près, qui consiste à les aimer de plusieurs manières. Ceux qui ne nous tiennent par aucun lien, nous ne les aimons que par la charité. Ceux, au contraire, qui nous sont unis de diverses manières, nous les aimons au surplus par d'autres amitiés, selon la nature des liens qui les rattachent à nous. Et parce que le bien sur lequel se fonde toute autre amitié honnête est ordonné, comme à sa fin, au bien sur lequel se fonde la charité, il suit que la charité commande aux actes de toutes les autres amitiés, comme l'art, qui a pour objet la fin, commande aux arts, qui ont pour objet tout ce qui est ordonné à la fin. De la sorte que le fait d'aimer quelqu'un parce qu'il est notre parent, notre proche ou notre concitoyen, ou pour tout autre motif valable et pouvant être ordonné au but de la charité, peut être commandé par la charité. C'est ainsi que, par la charité, tant par son activité propre que par les actes qu'elle commande, nous aimons ceux qui nous tiennent de plus près de plusieurs manières. Oui. Alors, parce qu'on les aime de plusieurs manières, on pourrait dire d'une certaine manière qu'il y a une plus grande intensité de l'amour. Oui. C'est un peu accidentel, ça, c'est moins rigoureux. Enfin, ce qui est plus difficile à bien comprendre, c'est la raison que donne d'abord saint Thomas au point de vue théologique. Parce que vous comprenez qu'il y a une unité dans l'acte entre la spécification et le point de vue de l'exercice. Alors, c'est très bien de faire la distinction entre la spécification et l'exercice. C'est très bien que cette distinction peut se faire. Mais c'est pas commode du tout dans l'acte. Alors, ce qui montre, hein, et c'est intéressant sous ce point de vue-là, ce qui montre que, en définitive, hein, ce sera... Parce que la spécification, hein, quand je prends le sujet, quand je fais un acte de charité absolument divin, c'est sous la mouvance du Saint-Esprit. Donc, il est normal que la correspondance entre l'objet et l'agent, qui est l'Esprit-Saint, corresponde. Quand je fais au contraire un acte de charité, prudentiellement, volontairement, je m'exerce à faire un acte de charité. Je n'ai pas encore fait d'acte de charité depuis ce matin. Là, je vais vite en faire, je cherche pauvre type des charités, n'est-ce pas ? Et vous relire, c'est cette parole merveilleuse de Saint-Vincent de Paul, cette chose extraordinaire. Il dit, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore rencontré de pauvres durant ma journée. Je n'ai pas encore rencontré le visage du Christ durant ma journée. C'est très beau, ça. Et on voit très bien ça. Alors ça, c'est l'intensité de la charité du côté du proche. Et le proche, pour lui, sa vraie famille, c'était les pauvres. C'était les plus proches, de fait. Donc, alors à ce moment-là, on comprend que l'Esprit-Saint peut aussi lier cette intensité de proximité de quelqu'un, on est envoyé pour les pauvres. Le Seigneur nous le demande. On est envoyé pour les pauvres. On a par le fait même, petit à petit, une espèce d'éducation à l'égard des pauvres qui est extraordinaire. Oui. Ça frappe toujours quand je vois quelqu'un comme Jean Vanier, par exemple. Il a une espèce de... Et quand on a connu avant, et puis qu'au bout de 10 ans qu'il s'occupe des pauvres, ou 20 ans qu'il s'occupe des pauvres, des handicapés, on voit une sensibilité qui s'est développée, pas uniquement humain, c'est l'action de l'Esprit Saint. Et ces pauvres, sa famille, ce sont les handicapés. C'est ça, sa famille, ce sont les plus proches. Oui. Alors, qui, au point de vue intensité, sont plus grandes. Et l'Esprit Saint peut, à ce moment-là, donner une espèce d'intensité plus grande, donc piété, qui vient transformer la miséricorde. Oui, alors c'est pour ça que c'est très très délicat. Et je comprends très bien ces deux aspects qu'il donne. Mais vous voyez, c'est pas du tout pratique. C'est pas du tout pratique. Ça, c'est merveilleux parce que c'est pas pratique. Et donc, ça laisse toute la souplesse que le Saint-Esprit peut donner. Et je crois que ça, c'est très important. Parce que vous voyez, ça montre. Parce que Saint Thomas donne ça comme les autres. Pas en disant, attention, ici je fais quelque chose, C'est la même analyse. Or, si vous êtes attentif à cette analyse, vous dites, mais non, mais c'est impossible, ça. Parce que l'objet et l'intensité, ordinairement, il y a une correspondance entre les deux. Pas toujours, hein, pas toujours. Il n'y a pas toujours une correspondance. Mais ordinairement, il y a une correspondance. Et le Saint-Esprit est là pour donner des intensités diverses. Parce qu'au fond, celui qui agit, quand on fait un acte d'amour, c'est nous. Mais c'est l'Esprit Saint avec nous. C'est l'auxilium, la grâce qui nous est donnée. Et c'est l'Esprit Saint qui agit à travers nous. Et quand c'est l'Esprit Saint qui agit à travers nous, donc le point de vue du sujet à ce moment-là rejoint la densité de l'objet. Mais le sujet peut nous orienter vers le plus misérable, en comprenant ce que vous avez fait ça au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors à ce moment-là, c'est la présence du Christ dans ce tout petit. Et alors c'est la proximité absolue de Dieu. Mais ça vous rejoint. Votre question tout à l'heure. Alors, voyons si vous voulez la réponse aux objections. C'est l'heure. Alors, il n'y a plus qu'une minute. S'il y a encore une question, posez-la. Parce que je crois que. Oui? Si vous avez bien compris, c'est pas commode à comprendre. Je suis tout à fait d'accord, c'est pas commode à comprendre. Il faut, d'abord parce que c'est de la théologie scientifique et que c'est pas toujours commode, premièrement, et puis que c'est vraiment une question où on voit spécialement ce que c'est que la théologie scientifique. Dites alors votre question, si vous avez bien compris. Il y a quand même une question. Oui, mais c'est, voyez, ce que saint Thomas veut dire. Et je crois que ça reste vrai lorsque vous êtes sous la mouvance du Saint-Esprit, c'est évident qu'il n'y a pas de problème. Ce que je dis, c'est l'Esprit-Saint qui est l'auteur, qui nous fait aimer. Mais c'est au point de vue volontaire. Il est évident que nous sommes quelquefois beaucoup plus éveillés. Nous avons tous fait cette expérience, moi je ne sais pas, mais il y a des jours où leur raison c'est dur, quoi. Tandis que quand vous voyez, je ne sais pas, un pauvre type qui a besoin de vous, votre cœur se fend en deux, et vous êtes là, et ça, une heure se passe avec une facilité extraordinaire. Tandis que lorsqu'il s'agit de leur raison, ben oui. Et pourtant, c'est bien plus grand, je suis en face de Dieu, juste auprès de Dieu. Vous voyez, alors voilà la différence. Objectivement, c'est bien plus grand, mais subjectivement, pire. C'est dur. Parce que le prochain, je vois sa misère. Alors, je suis éveillé dans ma sensibilité. Et ma sensibilité, à ce moment-là, aide l'exercice de la charité. Alors là, vous le comprenez. Oui. Et là, il y a une disproportion entre les deux. Et c'est ce que saint Thomas souligne. C'est que, de fait, lorsqu'il s'agit du prochain, notre sensibilité est plus immédiatement en éveil. Ça, c'est évident. Parce que notre sensibilité est plus immédiatement en éveil, nous avons plus de facilité. Pas toujours, hein, parce que quand la sensibilité est fatiguée, hein, et qu'on est devant des pauvres types qui ne cessent de... Au bout d'un certain temps, on en a par-dessus la tête, et puis on les revoit promener. Ce qu'on ne fait pas de Dieu. Vous voyez, Dieu, on dort plus facilement. C'est différent. Tandis que vis-à-vis du prochain, il peut nous agacer davantage. Alors on dit, on est assez, quand même, simplifie un peu, quand même, oui, on peut être agacé. C'est l'intensité, ça. L'intensité de l'acte qui va pour ou contre. Ça, nous ressentons ça très bien. Nous sentons très bien, vous voyez, autrement dit, on pourrait reprendre cet essai, l'argumentation de saint Thomas, en disant, quand il s'agit de celui qui est le plus proche de nous, la charité assume davantage notre nature, et donc il y a une connaturalité plus grande, et donc normalement un exercice plus intense. Quand il s'agit de Dieu, Dieu est, au point de vue de la détermination de l'objet, ça réclamerait un plus grand amour. Mais comme il y a la foi et qu'on ne voit pas, c'est quelquefois plus difficile. Voilà. Et je crois que c'est ça la raison que donne saint Thomas. C'est quelquefois plus difficile. Tandis que de l'autre côté, c'est plus facile. Ça va plus dans le sens de notre sensibilité. Alors ça, nous faisons l'expérience de ça tous les jours. C'est vrai, se dévouer aux autres, vous voyez, se dévouer aux autres, c'est quelquefois plus facile que de faire oraison, prier. quelquefois c'est plus difficile, parce que l'autre peut nous agacer davantage. Vous voyez? Tandis que Dieu ne nous agace pas, mais il est silencieux. C'est pour ça qu'on s'endort. Oui. Tandis qu'avec le prochain, c'est plus difficile de s'endormir, vous savez. Beaucoup plus difficile, parce que le prochain, il est là pour me rappeler constamment qu'il faut agir. Alors c'est ça le point de vue, c'est le point de vue de l'exercice du côté du sujet. Mais c'est délicat parce que de fait, la correspondance normalement entre objet et sujet devrait avoir lieu, mais comme nous vivons dans la foi, il y a un hiatus. Si on vivait pas dans la foi, il n'y aurait pas de hiatus. Mais on vit dans la foi, c'est à cause de ça qu'il y a une possibilité de faire la distinction entre les deux.
Mars 1983, troisième conférence.
Le dernier article, parce que je crois que ça avait posé quelques petites questions. Devons-nous aimer les meilleurs plus que ceux qui nous sont le plus étroitement unis? C'est un dilemme cornélien, n'est-ce pas? Les meilleurs, ce qui nous semble être les meilleurs, et puisque ceux qui nous sont le plus étroitement unis, selon notre connaturalité humaine. Alors, je reprends, ça va nous aider à mieux saisir, je crois. Tout acte, il faut qu'il soit proportionné à son objet et à l'agent. Donc, c'est facile à comprendre. Toute opération vitale implique deux aspects dans son analyse. Je vais l'analyser de près, parce que c'est intéressant. L'opération vitale. C'est l'opération vitale dont il s'agit. L'opération vitale a un objet et puis provient de ce qu'on appelle une vertu, une dunamis, c'est-à-dire une puissance vitale. C'est évident, toute opération vitale est le fruit des deux, puisque la puissance regarde l'objet, elle est déterminée par l'objet, et en étant déterminée par l'objet, elle opère l'opération vitale. Donc toute opération vitale a un double regard. Le point de vue de l'objet et le point de vue de sa source, d'où elle provient. Quand j'aime, ça provient de moi, et puis j'aime quelqu'un. Quand je connais une réalité, et c'est moi qui connais. Oui, c'est pour ça que le cogito de Descartes ne va pas très bien, parce qu'on dit simplement « je cogite ». Quoi ? Je cogite. Cogito, vous voyez, alors cogito, c'est intéressant à voir ça, parce que le cogito de Descartes ne regarde que le sujet pensant. Et c'est la seule chose que Descartes regarde. La question de l'objet, entre parenthèses. C'est à partir de là qu'on a mis entre parenthèses l'objet. C'est très cru. Et c'est intéressant. Ce n'est que plus tard qu'on a repris le cogito de Descartes, on dit, mais quand on cogite toujours à l'égard de quelqu'un, je pense. Mais vous pensez quoi ? C'est ça qui est intéressant. Je pense. C'est suffisant. Pas besoin d'autre chose. On est j'aime. Mais j'aime qui ? C'est ça l'intéressant. C'est de savoir l'objet. Tandis que quand je regarde uniquement ça, je suis donc replié sur le sujet. L'immanence. Et le point de vue de l'objet, l'attitude réflexive. C'est important à voir ça. Parce que Thomas d'Aquin, Descartes, qui a fait deux mondes. Peuvent se rencontrer de temps en temps et qu'ils peuvent se rencontrer, se regarder. Tout acte doit être proportionné à son objet et à l'agent qui le produit. De son objet, il tire sa détermination, son espèce. C'est-à-dire, il est de telle espèce. De la force de l'agent, son degré d'intensité. Vous êtes plus ou moins attentif. Vous voyez ? Vous avez beau regarder quelque chose de très très grand, mais si vous n'êtes pas attentif, ça ne sert pas à grand chose. Et vous regardez quelque chose de tout petit, si vous êtes très attentif, tiens, quand même quelque chose que vous découvrez. Oui, c'est très curieux. L'attention du sujet qui donne l'intensité à l'acte et l'objet qui donne son espèce, sa détermination, sa valeur. C'est ainsi qu'un mouvement est spécifié par le terme vers lequel il tend. Je vais à Lyon, je tends vers Lyon. Ça, c'est le terme. Et qu'il doit la rapidité de son allure à l'aptitude du mobile et à la force du moteur. On peut aller à Lyon avec un vélo ou avec une automobile qui ne marche plus du tout, ou avec ainsi de suite. Vous voyez, la rapidité, c'est le moteur, c'est la cause efficiente, c'est facile à comprendre. Semblablement, un amour est spécifié par son objet et son intensité vient de celui qui aime. Or, tout ça, c'est simplement nous rappeler une philosophie très simple, la philosophie du vivant, qu'il faut tout le temps regarder le point de vue de l'objet et le point de vue du sujet. Toujours. C'est les deux. Et les deux sont liés. Il ne faut pas opposer objet et sujet. Il faut voir que dans l'opération vitale, il y a toujours les deux. Vous voyez ? Et c'est ça qu'on fait ordinairement une erreur. C'est qu'on parle alors de l'objet et du sujet comme si ça s'opposait. Pas du tout. C'est l'analyse de l'opération vitale qui unit les deux, qui me permet de dire, voilà, l'objet, c'est ce qui spécifie, c'est ce qui détermine, et puis le sujet connaissant, la source, ou le sujet aimant, c'est le vivant. C'est l'aspect subjectif. Mais l'aspect subjectif et l'aspect objectif ne s'opposent pas. C'est à l'intérieur même de l'analyse d'une opération vitale qu'on a distingué les deux. Ce n'est qu'après qu'on a opposé l'aspect objectif et l'aspect subjectif. Dans toute opération vitale, il y a un aspect objectif et subjectif. C'est bien évident. C'est, à moins d'être uniquement le cogito de Descartes. Mais ça, c'est tout à fait spécial. Et quand j'ai dit simplement cogito, ça prouve que je pense à moi. Alors, par pudeur, on ne le dit pas. C'est vrai, quand vous dites « je pense à moi », je pense. En réalité, je pense à moi. J'aime, je m'aime. Et c'est vrai, si je n'aime personne, je m'aime. Ça ne peut pas être autrement. C'est donc, à ce moment-là, le sujet et l'objet se rejoignent. Et donc c'est parfait, puisque les deux se rejoignent. Or, l'objet de l'amour de charité, alors là on va entrer dans l'analyse. Or, l'objet de l'amour de charité, c'est Dieu. Alors ça, c'est toujours très important de voir ça. La charité, l'agapé, regarde Dieu, vertu théologale qui regarde Dieu. En premier lieu, immédiatement, elle regarde Dieu. La charité, c'est aimer Dieu. Et c'est l'homme qui aime. J'aime Dieu et j'aime celui qui aime Dieu, l'homme qui aime. Moi, en tant que je suis capable d'aimer Dieu. D'où il suit que du point de vue de la spécification de l'acte, la différence à mettre dans l'amour de charité à l'égard du prochain doit se prendre par rapport à Dieu. Ce qui signifie qu'à celui qui est plus rapproché de Dieu, nous voulons par la charité un plus grand bien. Celui qui est le plus proche de Dieu, nous lui voulons plus de bien, puisqu'il est plus proche de Dieu. Et donc nous l'aimons en premier lieu. Il est plus proche de Dieu, du côté spécifique, du côté de l'objet. Et en effet, quoique le bien que la charité veut à tous, et qui est la béatitude éternelle, soit un même bien en soi pour tout le monde, que j'aime d'un amour de charité fraternelle, je veux la béatitude. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, je veux qu'il vive du bonheur même de Dieu. Puisque la béatitude, c'est le bonheur même de Dieu. La béatitude éternelle. C'est le côté, vous voyez, catholique, universel de la charité. La charité veut à tous les hommes le bonheur éternel. Quand vous aimez quelqu'un d'un amour de charité, vous voulez qu'il ait le bonheur éternel. Chaque fois que vous priez pour quelqu'un, vous priez pour qu'il ait le bonheur éternel. Ça, c'est commun à tous ceux que vous aimez d'un amour de charité. Vous les aimez tous parce que vous désirez qu'un jour, ils soient bien heureux. Et pour être bien heureux, il faut vivre le bonheur même de Dieu. Donc, soit un même bien en soi, ce bien a cependant divers degrés selon les diverses participations à la béatitude. On peut vivre de ce bien plus ou moins, suivant qu'on participe plus ou moins à la bonté de Dieu. Ça, c'est sûr. La bonté de Dieu, elle est reçue différemment selon chacun, selon les capacités de chacun. Il convient à la charité de vouloir que la justice de Dieu, pour laquelle les meilleurs participent à la béatitude d'une manière plus parfaite, soit observée. Donc on n'a qu'un seul désir, c'est que l'ordre de la sagesse, je mettrai plutôt l'ordre de la sagesse que la justice, je mettrai plutôt l'ordre de la sagesse que pour l'ordre, parce qu'il s'agit de la charité, c'est plutôt l'ordre de la sagesse, pour que l'ordre de la sagesse soit parfaitement appliqué. Je n'ai qu'un seul désir quand j'aime Dieu, c'est d'aimer tous ceux que Dieu aime et de les aimer comme Dieu veut que je les aime. C'est comme ça qu'on s'aime d'un amour de charité à l'intérieur d'un couvent contemplatif. Il est bien évident qu'on aime tous ses frères, on aime toutes ses sœurs, comme Dieu veut qu'on les aime, et selon le bon plaisir de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons régler ça, non. Mais on peut, dans la charité, comprendre que Dieu a mis plus proche l'un que l'autre. C'est vrai, il y a des parentés spirituelles, il y a des familles d'âmes spirituelles. Ceci concerne l'espèce de l'amour, donc la détermination de l'amour, car nos amours sont spécifiquement distincts selon les biens différents que nous souhaitons à ceux que nous aimons. Alors là, on souhaite le même bien à tous, mais chacun selon l'ordre de la sagesse de Dieu. C'est pour ça que quand j'aime un saint, il me semble bien que c'est un saint, je désire qu'il soit de l'aimer comme Dieu veut que je l'aime, et comme je sais que Dieu l'aime beaucoup, alors je veux l'aimer beaucoup. C'est très simple. Je veux conformer mon bon plaisir au bon plaisir de Dieu. Mais au fond, j'entre par la charité, j'entre dans l'ordre de la sagesse de Dieu. Et j'essaie d'aimer tous ceux que Dieu a mis proche de moi, de les aimer comme Dieu les aime, avec la même intensité que Dieu. Mais l'intensité de l'amour à l'égard du prochain doit se prendre du côté de l'homme qui aime. Alors là, voilà l'autre détermination. Du côté de l'intensité. Donc c'est du côté du sujet. Je suis d'un côté quelqu'un que je connais depuis tout le temps. J'ai une connaturalité très grande avec cette personne. Je sais bien qu'il est moins aimé de Dieu. Je sais bien. Pauvre type, hein. Moins aimé de Dieu, c'est bien, je ne fais pas trop d'efforts. Mais Dieu l'a mis tout près de moi, voulez-vous. Il a mis tout près de moi depuis très très longtemps. On est jumeaux tout le temps, mais on vit près l'un de l'autre, on se connaît très bien, on a la même langue maternelle, on est très très proches l'un de l'autre. Donc il y a une connaturalité plus grande, c'est forcé. Je suis bien obligé de le regarder dans un réalisme. Je n'ai pas le droit de dire « Ah non, moi je n'ai plus que le regard de Dieu. Ah, » pas du tout. Tant que vous êtes sur la terre, non, vous ne pouvez pas dire « Vous n'avez que le regard de Dieu sur une chose. Hein. » Quand vous dites ça, patatras, hein, Dieu vous fait tomber, puis vous apercevez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que quand vous êtes par terre, vous avez la poussière tout près de vous, et Dieu est plus loin. Donc, alors la connaturalité existe toujours. Je suis un être qui reste un être avec ma sensibilité. Et avec ma sensibilité, je sais très bien. C'est très curieux. Il y a des sensibilités qui s'accrochent et des sensibilités qui s'accrochent moins. Pour ne pas dire autre chose. Ça s'accroche moins que vous. Et on n'en peut rien de ça. Et les plus grands saints n'en peuvent rien. Parce que plus ils sont saints, plus ils deviennent sensibles. C'est remarquable. Ça fait partie de la sainteté. Parce qu'il il se prépare à avoir un corps glorieux. Donc il se prépare à avoir une sensibilité encore beaucoup plus grande. Dieu ne demande pas de supprimer la sensibilité. Nous ne sommes pas des stoïciens. Et le stoïcisme n'est pas chrétien. Un stoïcien demanderait de supprimer sa sensibilité. Et un stoïcien demanderait, justement, c'est là où on voit très bien la différence, un stoïcien demanderait de supprimer la sensibilité et d'essayer, les stoïciens alors c'était Zeus, d'aimer tout selon la volonté de Zeus. Et avec ça qui comptait. Et Épictète, qui est pourtant un homme qui devait être très sensible et qui devait être extraordinaire, l'esclave devenu philosophe, Épictète dit ouvertement, que mon ami meurt, je dois rester absolument impassible. Parce que s'il meurt, c'est la volonté de Zeus. Donc il meurt. Très bien. Que mon épouse meure, c'est la volonté de Zeus. Très bien. J'en peux rien. Que mes enfants meurent, je n'en peux rien. Ma chrétienne ne dirait pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il sait que, de fait, Dieu a créé des liens sensibles. Parce que Dieu nous a créé chacun avec notre sensibilité. Alors, c'est là le point délicat, vous comprenez, c'est le petit conflit cornélien, n'est-ce pas, entre ma connaturalité et puis ce qui me semble être les plus amis de Dieu. On voit très bien le problème qui peut se poser et qui se pose de fait constamment. C'est vrai, ça peut se poser de façon très très forte, ça. Alors, c'est ça qui me semble intéressant à noter, n'est-ce pas ? Mais l'intensité de l'amour à l'égard du prochain doit se prendre du côté de l'homme qui aime. De ce point de vue, l'homme aime d'un amour plus intense ceux qui lui sont plus proches, relativement au bien pour lequel il les aime. Donc, relativement au bien pour lequel il les aime, qu'il n'aime les meilleurs relativement à un bien plus grand. Il aimera les meilleurs pour un plus grand bien, il souhaitera aux meilleurs un plus grand bien, et de ce côté-là, il aura donc une propension à les aimer plus, du côté objectif, mais du côté de sa sensibilité, du côté de sa connaturalité, du côté de ce qu'il est, il dira, mais oui, c'est vrai, je suis plus lié avec celui-là. Très mystérieux, ça. Et c'est très beau, vous voyez. C'est pour montrer, c'est bien montrer que l'amour divin ne supprime pas notre capacité d'aimer au point de vue humain. Dieu laisse notre sensibilité, ça c'est... Il laisse notre sensibilité pour mettre ses connaturalités, pour mettre ses proximités, pour mettre... Alors, c'est pas seulement la sensibilité, c'est aussi le fait qu'on s'entend mieux profondément. On a quelque chose de plus proche. Vous voyez, promener quelqu'un avec qui on a fait son noviciat. Hein, on ne peut pas dire l'école avant, bon, le noviciat. Alors, mais il y a évidemment une connaturalité plus grande. Et les vieux combattants de la guerre de 14, ils étaient dans les tranchées ensemble, là, il reste quelque chose, et dès qu'on se met à parler de ça, toute la soirée peut y passer. On voit très bien tout ce que ça implique de choses. On a combattu ensemble, on a peiné ensemble, on a eu peur ensemble, comme au noviciat, on a peiné un carré ensemble, on a lutté ensemble. Alors, il y a quand même quelque chose. Je rencontre quelqu'un qui paraît beaucoup plus sain. Ah oui, il y a déjà une auréole autour de la tête. Je souhaite une très grande... Mais je suis quand même plus lié intensément à ceux qui sont plus proches. Oui, et alors, ma sainte amende n'est pas d'ordre entre les deux. Hein. Il dit simplement, ah tiens, un double regard. Un double regard. Et ça, je crois que c'est très beau. C'est très beau de mettre ce double regard sans trancher. Oui, c'est encore un amour de charité, parce que la charité assume tout. Gêne de charité, alors il faut toujours faire, ça demande une certaine purification, c'est évident. Il pourrait très bien y avoir une exagération, alors là ce serait plus ça. ça ne peut pas se mettre du côté de la charité. Donc, l'exercice, c'est l'homme. Or, l'homme, c'est tout le sujet, donc la sensibilité de l'homme. Et une sensibilité qui est une sensibilité purifiée, une sensibilité qui nous met en connaturalité plus profonde, un ami, quoi, tout simplement. Bon, on est très l'ordre de l'amitié, si vous voulez. C'est, simplement, on se pose la question, est-ce que quand j'ai un ami, du fait même que je rencontre quelqu'un qui est plus sain, est-ce que je dois dire à mon ami, maintenant je lui tourne la tête sans plus, je tourne le dos, j'ai quelqu'un de plus sain. Ah non, j'ai pas le droit. Dans l'ordo caritatis, je dois tenir compte de ça. Dans l'ordo caritatis. Oui. C'est très beau parce que c'est pas du tout, c'est pas inhumain, vous voyez. Ça montre que la charité ne supprime absolument pas les liens que Dieu a pu réaliser et créer. Alors, évidemment, ça dépend du statut dans lequel je suis, vous voyez, parce que vous allez me dire, oh, ça c'est merveilleux. Dans tous mes amis avant d'entrer au couvent, mais voilà, donc la Alors, je vois tout de suite ce que vous allez dire. Hein. Bon, je vais respecter ce que dit saint Thomas. Bon, Attention, saint Thomas ne parle pas d'un état particulier qu'on a opté pour quelque chose de plus absolu. Ça, c'est différent. Oui, saint Thomas parle là de la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a des états différents. Alors, on doit tenir compte. Et l'ordre de charité est différent selon les états. Ça, c'est sûr. L'entrée en religion, surtout quand il s'agit d'entrer à Bethléem, bon, ça fait une coupure quand même. Et on fera confiance au Seigneur, cette coupure. On dira, je te porte dans la prière. Ouais, si c'est quelqu'un de très saint, il comprendra. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas très saint, il dira, ça va très bien. Tu me portes dans la prière, c'est un peu lointain. S'il était très saint, ça irait. Mais s'il n'était pas très saint, c'est beaucoup plus difficile. Au fond, c'est la seule chose que vous pouvez dire. Puis que le Seigneur après peut permettre que de fait, par la prière, ils comprennent. C'est ce qui arrive souvent. Alors, je continue. On peut encore ici remarquer une autre différence. Donc, c'est la première, celle-là. C'est celle que donne saint Thomas. Et vous voyez qu'elle est très forte pour moi. C'est très beau, cet article-là. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce que ça montre comment, de fait, c'est beaucoup plus complexe qu'on le dit, l'ordo caritatis. Mais à l'intérieur même de la vie religieuse, vous voyez, à l'intérieur même de la vie religieuse, il se crée des liens, on ne sait pas trop comment, spirituels. C'est bien évident qu'il se crée des liens spirituels, des liens. Et en même temps, on se dit, mais oui, une telle, mais c'est évident, elle paraît tellement sainte. On ne peut jamais savoir, tandis que là, vous le savez très bien. Comme naturalité, vous savez très bien. L'autre, vous ne pouvez jamais savoir. De façon absolue. Parce que je ne peux jamais savoir quel est celle d'entre vous ou celui d'entre vous qui a déjà une auréole, n'est-ce pas? Puisqu'on introduit des causes en sainteté qu'après la mort. C'était Blois qui disait ça, n'est-ce pas? L'Église catholique, c'est celle qui reconnaît les saints après leur mort. Heureusement, du reste. Parce qu'avant, ils peuvent toujours... Hein, dévié. Alors, c'est après la mort. Donc, c'est après la mort que l'auréole pousse. Il faut d'abord pourrir avant que l'auréole pousse. On peut encore ici remarquer une autre différence. Parmi ceux qui nous tiennent de près, donc la connaturalité, parmi ceux qui nous tiennent, il en est qui sont plus proches par leur origine naturelle. Par leur naissance, c'est la famille. Origine dont ils ne peuvent s'écarter, puisque d'elle, ils tiennent ce qu'ils sont. Je ne peux pas renier mes parents. Je ne peux pas renier mon origine et ma famille. Au contraire, la bonté de la vertu par laquelle certains s'approchent de Dieu peut s'acquérir et disparaître, augmenter et diminuer, comme le monde ce qui précède. C'est vrai, il y a quelque chose de plus stable, de plus c'est évident. J'ai rencontré dans ma jeunesse religieuse tel, et puis j'ai appris après que ça avait un peu dévié. C'est vrai, il arrive toujours des trucs comme ça. Hélas, Ça fait partie de ses luttes, ça fait partie de ses amitiés du début. C'est très rare qu'il y ait une fidélité à travers tout. C'est très rare, une fidélité qui continue, qui continue. Quand on regarde progressivement, bon, il y a eu des amis qui étaient des amis dans l'ordre de la sainteté, sur lesquels, et puis, on ne sait pas pourquoi. On sait trop bien pourquoi, souvent. Mais ça ne veut rien, on ne sait pas pourquoi, on ne regarde pas. Et c'est pourquoi je puis, par charité, désirer que celui qui m'est plus proche soit meilleur qu'un autre, et qu'ainsi il puisse parvenir à un degré plus grand de béatitude. Je puis désirer, ça fait partie de l'ordo caritatis. Celui qui m'est plus proche, par comme naturalité, je peux prier plus pour lui, pour qu'il soit bien heureux. Il y a là un lien qui dure. Oui. C'est là encore, c'est intéressant à voir que on quitte ses parents, mais on sait très bien que par la vie religieuse, on est encore plus proche d'eux. C'est vrai, ce sont les filles et les fils religieux qui sont les plus proches des parents. Et les parents sont bien obligés de le reconnaître parce que les fils et les filles religieux n'ont pas fondé d'autre foyer. Tandis que dès qu'on a fondé un autre foyer, on est attaché à son foyer, c'est du reste normal. Tandis que quand on n'a pas fondé de foyer, c'est très vrai, il y a un lien beaucoup plus fort. Et alors à ce moment-là, on doit souhaiter vis-à-vis de ses parents une béatitude plus grande, même vis-à-vis de ceux qu'on fonde. Il est encore une autre manière d'aimer davantage par la charité ceux qui nous touchent de plus près, qui consiste à les aimer de plusieurs manières. Comme saint Thomas insiste, hein, c'est très beau, parce que c'est quand même un saint. Donc il avait très fort le sens d'aimer d'autres saints. Saint Thomas avait rencontré saint Louis.